Radio Kapi. Oh, Kapi. Jean-Désiré Kanyama pour le journal.
Au sommaire, la CENI a clôturé hier dimanche l'opération d'enregistrement et de réception des candidatures pour la présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Au total, les prétendants à la magistrature suprême sont plus d'une vingtaine à avoir postulé avec une dernière journée trop chargée pour la CENI. La résurgence des violents combats entre le groupe armé au Nord Kivu et le M23 depuis le 1er octobre dernier fait craindre une nouvelle détérioration de la situation humanitaire. L'alerte est d'OCHA dans son rapport du 6 octobre. La coordination humanitaire dit craindre un afflux de personnes déplacées, un risque de choléra. L'invité de ce journal est le président du conseil d'administration de l'Agence congolaise de l'environnement, ACE. Crispin Gbundu Malengo parle de la soumission à l'étude d'impact environnemental et social de tout projet dont l'exécution dépend de ses prérogatives. Mesdames, Messieurs, bonjour. Clôture officielle hier dimanche 8 octobre par la CENI de l'opération du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle de décembre 2023 jusqu'à la fermeture du bureau des réceptions et traitement des candidatures BRTC à 19h, heure de l'ouest de la RDC. 24 dossiers ont été effectivement réceptionnés par la centrale électorale. Grâce à Hamzati nous fait le point de toutes ces candidatures.
Parmi ces candidats dans la course à la magistrature suprême, il y a deux anciens premiers ministres. Il s'agit de Matata Ponyo et Adolphe Muzito. Il y a également trois anciens gouverneurs des provinces, à savoir Tony Bulamba et Jean-Claude Bayende, tous de l'Équateur, ainsi que Moïse Katumbi du Katanga. Tous ces candidats cités tentent pour la première fois de diriger le pays, hormis Muzito dont les dossiers avaient été écartés en 2018. L'unique femme sur la liste est Marie-Josée Ifoku qui était encore candidate en 2018. D'autres qui retentent leur chance dans la compétition sont notamment Noël Tchani, Seth Kikuni, Rajabo Tebabo Suburabo, Théodore Ngoy et Martin Fayoulou. Quant aux autres nouvelles figures dans cette joute présidentielle, nous avons les docteurs Denis Mukwege, Deli Sesanga, Frank Diongo, Constant Mutamba, Justin Moudekereza, Georges Boussefalaï, ancien directeur du cabinet de feu, président Laura Désiré Kabila, Rex Kazadi, pasteur Abraham Galassi. Il y a également l'homme d'affaires et acteur politique Nkema Lilo Bokonziloli, l'activiste Floribert Anzuluni, le footballeur Patrice Mwamba et l'entrepreneur André Massalou. Enfin, il y a le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession. Notons que le candidat le plus âgé est Georges Boussé, 77 ans, et le plus jeune, c'est Constant Mutamba, âgé de 35 ans.
Grâce à Mzati Massanzi sur Radio Kapi. Après cette clôture officielle de l'opération de dépôt de candidature à la présidentielle, quelles sont les prochaines étapes ? La réponse avec vous, Jacques-Yves Molima.
Du 9 jusqu'au 13 octobre, c'est la période retenue pour le retrait ou substitution des dossiers des candidatures à l'élection présidentielle. Ces dossiers seront transmis au bureau de la CENI du 15 au 24 octobre pour la délibération par l'Assemblée plénière de la CENI. Le 25 octobre, la Commission électorale nationale indépendante va publier les listes provisoires des candidats présidents de la République. Les propriétaires des dossiers déclarés irrécevables seront notifiés par la CENI du 26 au 28 octobre en cours. Les candidatures irrécevables peuvent se préparer pour les contentieux du 26 au 3 novembre prochain. Après les contentieux, la Cour constitutionnelle va notifier ses arrêts à la CENI du 4 au 10 novembre prochain. L'organe de gestion des élections pourra donc publier les listes définitives de candidats présidents de la République les 18 novembre 2023.
Jacques-Yves Molima. Par ailleurs, la synergie des missions d'observation électorale CIMOCEL dit avoir suivi de façon très attentive les processus dédiés au dépôt de candidature au poste de président de la République. Dans un communiqué publié samedi dernier à Kinshasa, la CIMOCEL salue les efforts d'objectivité et de neutralité jusqu'à présent consentis par la CENI dans le contrôle de conformité des candidatures à la loi. Elle espère qu'elle maintiendra ce cap dans l'optique de préserver la paix et la cohésion nationale tout le long de ce processus. Dans ses recommandations, la CIMOCEL demande notamment à la Cour constitutionnelle de garantir au moment du contentieux des candidatures le respect du principe d'égalité et de liberté de concourir à l'expression du suffrage universel pour les prétendants à la magistrature suprême. D'autres détails avec vous, Blaise Sindani.
Dans la suite des recommandations, la CIMOCEL demande au parquet ainsi qu'aux cours et tribunaux de poursuivre et de juger dans le strict respect des lois tout individu ou groupe d'individus responsable d'incitation à la haine tribale ou violence afin de servir d'exemple à la CENI de conduire le processus électoral dans le respect du cadre juridique des élections en vue de recréer la confiance entre parties prenantes au processus électoral, de sensibiliser les citoyens sur les circuits de circulation des électeurs dans un bureau de vote et sur l'usage du dispositif électronique de vote. Aux partis politiques et aux candidats de s'abstenir de toute manipulation de nature à mettre à mal la cohésion nationale à la veille des élections générales de décembre 2023, de respecter la loi et le calendrier électoral en ce qui concerne la campagne électorale, de procéder à la sensibilisation de leurs militants et cadres sur les devoirs civiques de vote, au gouvernement de garantir à tous les candidats qui seront confirmés un traitement sécuritaire égalitaire, une liberté de mouvement et de manifester en vue de garantir une compétition électorale saine, compétitive et concurrentielle dans le strict respect des lois de la République en la matière.
Autre volet de l'actualité au Nord Kivu, la résurgence des violents combats depuis le 1er octobre entre groupes armés et M23 fait craindre une nouvelle détérioration de la situation humanitaire. Dans son rapport du 6 octobre dernier, OCHA alerte et dit craindre un afflux de personnes déplacées et un risque de choléra. En effet, des affrontements opposant la coalition des groupes armés locaux d'autodéfense aux rebelles du mouvement M23 ont été signalés sur plusieurs fronts hier dimanche. Il s'agit notamment de la partie nord de Kiwanja, en territoire de Rutshuru, et autour de Kilolire et Kichanga, en territoire de Masisi. Selon plusieurs sources dans ces zones, alors que l'intensité des détonations est en baisse, quelques avancées de cette coalition des groupes armés locaux sont signalées sur certaines localités. Des détails avec vous, Denise Loukesso.
Selon des sources humanitaires, plus de 51 000 nouvelles personnes ont été contraintes de fuir leur maison pour se mettre à l'abri des combats. Les personnes déplacées se concentrent vers Mweso, Kichanga et d'autres localités du territoire de Masisi, ainsi que vers les localités de Buiza et Bichoucha dans le territoire de Rutshuru. Ce 6 octobre, des violents combats ont également éclaté dans plusieurs villages de la zone de santé de Bambou, au territoire de Rutshuru. Des tirs d'armes ont également été signalés près de Kibumba dans le territoire de Niragungu. L'accès aux zones affectées reste limité pour les acteurs humanitaires en raison de l'insécurité. Seule une organisation humanitaire dispose actuellement d'une capacité de réponse médicale à Kichanga et Mweso dans les territoires de Masisi. Cependant, avec l'afflux de personnes déplacées et les risques de choléra, cette capacité risque d'être rapidement dépassée, déplore OCHA. À ce jour, OCHA parle de 2,4 millions de personnes qui sont déplacées dans la province du Nord Kivu. Les acteurs humanitaires disent s'apprêter à renforcer rapidement la réponse humanitaire dans ces zones dès que les conditions sécuritaires les permettront. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Et pendant ce temps, les déplacés de Kwamout, Oma Indombe, vivant dans la ville de Bandundu, au Kwilu, expriment leur ras-le-bol à propos du calvaire qu'ils vivent dans leur site à Malebo. Dans une déclaration vendredi dernier à Radio Kapi, ils affirment être abandonnés à leur triste sort par les gouvernements tant central que provinciaux du Kwilu et du Maïndombe. Ils sont en effet dépourvus de tout, sans accès aux soins de santé, sans nourriture, ce qui les expose au décès. Suivez un extrait de leur déclaration lu par Kassiaman Foutila. Bienvenue dans ses propos recueillis par Irène Boma.
Nous déplacés du conflit ethnique Tekeyaka, résidents au marché de Malebo, avons décidé de faire la marche pour ces problèmes qui nous dépassent ici dans la ville de Bandundu. 1. Non-assistance des soins primaires et non-assistance des prises en charge alimentaires qui provoquent tant de décès dans notre site de Malebo. 2. La non-scolarisation de nos enfants pendant une année due par manque de fournitures scolaires. 3. Nous avons des difficultés pour l'enterrement des déplacés qui meurent. Déjà, nous totalisons 69 cas. 4. Nous posons cette question de savoir. Nous sommes des Congolais ou des étrangers? Parce que les gouvernements provinciaux de Kwilu, Maïndombe et Central nous ont abandonnés à notre triste sort. Nous maintenons toujours la marche ce lundi 9 10 2023 à 8h. Nous sommes sur la route.
Et puis, ce lundi 9 octobre, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la santé mentale. Selon le ministère de la Santé, pas moins de 20 millions de Congolais souffrent de troubles mentaux. Et pourtant, la couverture en santé reste encore faible, à peine 5%. Entre mépris, insuffisance des spécialistes dédiés et des structures médicales adaptées, La maladie mentale reste le parent pauvre du système de santé publique congolais. C'est dans ce cadre que Radio Okapi vous en parle toute cette semaine à travers différentes productions d'un peu partout dans le pays. Des détails avec Cynthia Bachizina Bizana.
Difficile de marcher dans les rues congolaises sans apercevoir des personnes en pleine errance à moitié nues en train de fouiner dans les bacs à ordures pour manger. Cela dans l'indifférence totale. Ces citoyens appelés abusivement fous sont bien souvent atteints de schizophrénie, l'un des plus fréquents troubles mentaux qui entraîne un comportement déviant ou dérangeant exclusivement lié à la maladie. Aujourd'hui, selon le docteur Serge Mounané, psychiatre congolais, le domaine de la santé mentale est très peu soutenue par l'État congolais et les quelques acteurs qui financent ou qui appuient le secteur sont des bailleurs extérieurs. L'autre urgence est d'avoir plus de professionnels dédiés. En effet, la densité des psychiatres en RDC est encore très faible par habitant. Ajoutez à cela une faible acceptabilité de la maladie dans les communautés. La plupart des pathologies sont considérées comme des possessions démoniaques ou bien des problèmes spirituels, précise le docteur Serge Mounané. Toutefois, le médecin spécialiste congolais salue le fait que le ministère de la Santé ainsi que son programme de santé mentale sont actuellement en train d'élaborer un plan stratégique de prise en charge. Ce plan ambitieux, une fois validé et appliqué, permettra une bonne intégration de la santé mentale dans notre système de santé.
Promouvoir l'entrepreneur congolais pour le développement durable de la RDC était au centre de la conférence qui a eu lieu samedi dernier à Lubumbashi, organisée par la Fédération nationale congolaise des organismes publics et privés (FENACO). Cette conférence a réuni les entrepreneurs, les représentants de quelques structures bancaires de la ville de Lubumbashi et autres. Pour le président de la FENACO, les entrepreneurs qui sont encore dans l'informel ont tout intérêt d'être en règle avec l'État pour l'émergence de leurs activités. On écoute à ce sujet Alain Kalamba, président de la FENACO, au micro de Jean Gandou.
Nous avons constaté que beaucoup d'entrepreneurs à travers la République démocratique du Congo et dans notre ville de Lubumbashi travaillent encore dans les secteurs informels. Ils n'ont pas tous les documents nécessaires, les documents requis pour le fonctionnement d'une entreprise. Et aujourd'hui, dans cette conférence, il était question de sensibiliser les entrepreneurs de quitter les secteurs informels et d'entrer dans ce qui est formel, afin qu'ils aient accès au crédit bancaire. Raison pour laquelle nous avons fait venir les représentants des banques, afin qu'ils puissent nous expliquer comment procéder pour accéder au crédit bancaire. Nous avons connu à cette grande conférence la participation de l'INPP, la participation de la division provinciale du commerce extérieur, ainsi que d'autres partenaires.
Arrivé samedi dernier à Mboudjima et au Kasaï oriental, des 300 tonnes de bitume pour asphalter 4 artères de la ville dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation des 14 km de route de la voirie urbaine par l'entreprise JMC. Le convoi de camions transportant ces bitumes ont sillonné la ville avant d'être entreposés à la base VI, se trouvant à Titengue, à 10 km de la ville. L'ingénieur Gabriel Kaditi de l'entreprise JMC Construction revient ici sur ce qui sera fait. Il est au micro d'Esther Ndalafina.
Ce que nous venons de recevoir, ça peut couvrir déjà, disons, 6 km. Alors, c'est comme c'est l'avenue du gouverneur et l'avenue de Bikiedji après, c'est-à-dire que c'est par là que nous allons commencer progressivement. Et déjà, l'avenue Bémé est aussi déjà dans le viseur. Pourquoi ? Parce que déjà, dans un mois maximum, déjà, on peut aussi déjà être prêt à pouvoir asphalter. Donc, les bitumes qui sont venus, c'est déjà pour asphalter une affaire de 5 km. Le projet a une durée de 20 mois. À l'interne, nous nous battons, nous travaillons, pas pour terminer dans le 20 mois, mais c'est pour terminer plus tôt, dans 12 mois. C'est ça, en fait, notre planification. C'est pourquoi le 12 axes, nous l'avons reparti en 3 séquences de 4 axes chacune. Première phase, 4 axes qui comprend l'avenue du gouverneur, l'avenue Loubi, l'avenue Bémé et l'avenue Saint-Raphaël.
Actualité internationale.
Centrafrique, les mouvements de grogne se multiplient dans le secteur public en raison de retards dans le versement des salaires. Des retards qui touchent largement les employés de la fonction publique, en particulier les personnes hors statut nommées par décret. tandis que les salaires des 7 ministères sont désormais pris en charge par la Banque mondiale. Le ministre de la fonction publique estime néanmoins que la situation est sous contrôle et liée à la lutte contre les emplois fictifs dans les administrations. Au Tchad, l'opposant Succès Masra a annoncé son intention de rentrer au pays le 18 octobre prochain, près d'un an après en être parti suite aux manifestations meurtrières du 20 octobre 2022. La semaine dernière, on apprenait qu'un mandat d'arrêt international avait été émis contre lui en juin dernier par la justice tchadienne. Dans ce contexte tendu, des jeunes militants de son parti, les transformateurs, plus de 200, ont été arrêtés hier dimanche par la police. Les autorités affirment, elles, qu'une cinquantaine de personnes ont été interpellées, et ce, pour trouble à l'ordre public.
L'invité
de ce journal est le président du conseil d'administration de l'Agence congolaise de l'environnement, ACE, Crispin Bundu Malengo, parler de la soumission à l'étude d'impact environnemental et social de tout projet dont l'exécution dépend de ses prérogatives, notamment des projets d'infrastructure, de développement, d'exploitation à caractère industriel, agricole, forestier, minier, commercial et de télécommunications. Il s'entretient avec Jacques-Yves Moulima.
Bonjour Monsieur le PCA.
Bonjour.
Vous êtes à la tête de l'administration de l'Agence congolaise de l'environnement. Quel est le rôle et la mission de l'ACE?
L'ACE, c'est l'Agence congolaise de l'environnement qui a pour mission de pouvoir évaluer les études environnementales et veiller à ce qu'il n'y ait pas de risques environnementaux et sociaux. Et en même temps, dans l'évaluation des études environnementales qui sont accompagnées de certificats d'études environnementales pour des gens qui les font très bien, mais les autres parfois n'acceptent pas. C'est suivi aussi d'une équipe qui suit les projets sur terrain.
Vous parlez de l'étude des impacts environnementaux et sociaux dans tous les secteurs, hein, y compris les mines. Pour le Congolais lambda, qu'est-ce qu'il doit comprendre quand vous dites étude des impacts environnementaux?
Nous avons besoin du développement dans notre pays et il y a beaucoup de projets qui viennent. Mais tous ces projets, quand ils sont exécutés, ne vont pas dans le sens de la protection de l'environnement et de la protection de la société, de la population. Voilà pourquoi tous ces projets doivent présenter une étude au préalable avant d'être exécutés. Et dans cette présentation de l'étude, c'est l'ACE qui est une structure technique et scientifique qui analyse cette étude. Si le projet dévie par rapport à ces études, l'ACE interrompt le projet.
Vous parlez de protection de la population dans l'environnement. Alors, on a des engins, il y a des avions, il y a même des bars et des terrasses avec toutes les pollutions sonores. Est-ce que cela concerne aussi l'ACE?
Il y a beaucoup de secteurs qui sont concernés par l'ACE. Sur le plan, par exemple, de l'hydrocarbure, il y a des stations de carburant partout. Ce sont des risques. Dans le domaine des brasseries, des fabrications de boissons, des gens boivent sans connaître les contenus. Il y a des gens qui tombent malades et qui meurent, des risques de mort. Dans le domaine, par exemple, de la culture, il y a les plantations des églises partout, avec des nuisances sonores. Moi-même, je suis victime de ça là où je vis. Je travaille toute la journée, je rentre, la prière commence la nuit, juste à côté. Et je ne sais pas dormir jusqu'au matin. Ça signifie que des gens sont des victimes dans ce domaine-là. Ils tombent malades, parfois ils ont des problèmes psychologiques. Dans le domaine des mines, des sociétés minières arrivent, s'implantent quelque part, détruisent l'environnement, chassent la population, société forestière, la même chose. Coupe du bois en désordre. Et ça, l'ACE doit ouvrir l'œil et le banc pour protéger cette population.
Alors, l'ACE entendait depuis quelques mois la publication au journal officiel, l'arrêt du Conseil d'État confirmant le monopole des études. Et d'ailleurs, Madame la ministre Eva Zaïba en a parlé lors de votre installation, que ça sera le cheval de bataille. Aujourd'hui, que ces choses faites, pouvez-vous rappeler les enjeux de ces combats? Parce qu'on dit que c'est votre cheval de bataille.
Premièrement, je dois dire que Madame Bazaïba est la pionnière. Et l'ACE, c'est comme une fille sortie de ses entrailles intellectuelles. Parce qu'elle a encadré cette agence dès son départ. Et les combats commençaient à partir de là. Parce qu'il y avait un problème. Le ministère de Mines gardait encore en son sein un service qui parlait de l'impact environnemental. Alors que la totalité, la globalité de cet impact doit être gérée par l'ACE. Donc il y avait chevauchement entre un service du ministère des Mines et l'ACE. Il s'agit là d'un conflit administratif. C'est la raison pour laquelle le conflit a été amené au Conseil d'État. Et finalement, l'ACE a gagné le procès et le procès venait d'être publié au journal officiel. Ce que nous attendons maintenant du ministère de la Justice, c'est de pouvoir aider à l'exécution de cet arrêt. Mais cela suivra, bien sûr, une certaine modification de certains articles du règlement minier, parce que certains articles étaient biaisés. Et maintenant que le monopole revient à la CE, ces articles doivent être modifiés pour que nous puissions bien marcher avec tous les services des mines et d'autres services dans le sens d'accomplir notre mission en tant qu'ACE.
Mais jusque-là, vous n'êtes qu'à Kinshasa. À quand l'expansion de l'ACE à travers toute la République?
Nous venons d'arriver, il faut un plan de travail. Il y a eu un plan, le DG nous l'a présenté, le plan d'expansion. Il y a eu déjà quelques provinces qui ont été ciblées et l'ACE est présente dans quelques provinces. Ici, dans la ville de Kinshasa, nous avons aussi des directions provinciales, mais nous faisons un travail d'expansion progressive parce que cela suppose aussi des frais.
Monsieur le PCA, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'était notre invité, le président du conseil d'administration de l'Agence congolaise de l'environnement, ACE. Crispin Bundu Malengo était avec Jacques-Yves Molima. Fin de cette édition du journal qui a été supervisé par Pelé Kipela Mondo, qui a été supervisé par Alain Irung Plito et mise en onde par Jean-Claude Siala. À vous infiniment merci de l'avoir écouté.